Alors bonjour à vous tous et à vous toutes. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis animateur de l'émission La vie en BD. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle série qu'on vous propose. Donc une triple collaboration, donc La vie en BD sur CKRL 89.1, Québec BD ainsi que La Fabrique culturelle. Et ce qu'on vous propose, eh bien, c'est une série de rencontres d'auteurs qui sont faites par le biais de plateformes de téléprésence et qu'on vous propose à la fois en contenu web, à la fois en contenu radio, à la fois en contenu balado. Donc, au fil des semaines, on ira à la rencontre de créateurs canadiens, de créateurs d'Amérique du Nord, de créateurs d'Europe, pour échanger avec eux sur leur approche de création, sur leurs projets, sur leurs albums. Bref, aller à leur rencontre et prendre le temps de le faire au fil d'une longue rencontre qu'on va vous proposer. Alors, on espère évidemment que vous allez apprécier toute cette série et ben, on est bien content de vous savoir à l'écoute, que ce soit sur le web par le biais des médias sociaux ou des plateformes de la Fabrique culturelle et du Festival Québec BD, que ce soit en format balado sur les ondes du 89.1 CKRL ou en ondes sur les ondes également du 89.1. Alors, pour cette première rencontre du 9e art, on dirait qu'après l'annulation du 33e Festival Québec BD, tout le monde a regardé l'affiche et on était très dommage qu'elle ne soit pas un peu partout à travers la ville de Québec. Et ça nous a amené à nous dire, ben, pourquoi pas profiter de l'occasion et lancer la série avec celui qui était derrière cette affiche et surtout celui qui est derrière plusieurs belles séries qu'on a eu l'occasion de découvrir au fil des dernières années, donc Promise aux côtés de Thierry Lamy aux éditions Glénat, Giant et Boot Black du côté des éditions d'Argo. Michael, bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, peut-être d'emblée, donc je disais rencontre, longue rencontre, j'aurais envie qu'on retourne en arrière, là, mais le plus loin possible. Je me disais, essayons de figurer un peu Michael à 22 ans qui décide de monter son premier projet BD. Tu avais déjà fait des études un peu en parallèle et à un moment donné, tu as choisi d'essayer de te lancer, d'essayer d'aller jusqu'au bout de ce qui était alors un rêve de jeunesse finalement.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours fait de la bande dessinée, mais mes études m'ont emmené sur un autre territoire. Et puis, en fait, quand j'étais diplômé, c'était un diplôme paramédical. Et quand j'étais diplômé, eh bien, je me suis dit, non, non, là, c'est maintenant ou jamais, en fait, il faut que je me lance dans la BD. Donc, j'étais autonome financièrement, j'étais diplômé. Et puis, je me suis dit, bah, OK, depuis toujours, je veux faire auteur de BD. Donc, je vais monter un dossier, je vais créer une histoire, un personnage, monter un dossier pour présenter à des maisons d'édition. Et puis c'est parti de là, effectivement. C'était en 96, donc j'avais 22 ans. Voilà.
Et ça a pris 3 ans avant que le projet devienne un projet réel, si on peut dire.
Oui, c'est ça. En fait, le premier éditeur et le seul avec lequel j'ai vraiment accroché, c'est un éditeur régional qui s'appelle, ce sont les éditions Petit Louis, qui diffuse surtout en Bretagne et en France. Et je l'avais rencontré à Angoulême, où je suis allé avec mon carton à dessin sous le bras pour essayer de rencontrer tous les éditeurs. Et lui s'était montré intéressé par le projet. C'était une histoire très franco-belge, d'une espèce de Indiana Jones junior qui voyage avec son père archéologue au 19e siècle, un enfant d'une dizaine d'années, à qui il arrive des tas d'aventures. Et en fait, il m'a dit, oui, c'est bien, mais ça pêche par ceci, par cela. Donc, il m'a fait retravailler. Donc, moi, pendant un an, je suis retourné chez moi, je retravaillais. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet et tout ça, bien sûr, hein. Et donc, un an après, je retournais à Angoulême, lui montrer, et puis il m'a dit oui, c'est bien, mais encore ceci, cela. Puis ça a pris 3 ans avant que finalement ils disent ah oui, bah ok, je vais te signer ton premier contrat d'édition. C'était en 2000 pour une parution de l'album en 2001.
Donc c'est bien que d'un côté t'es pas lâché et de l'autre côté lui t'es pas lâché non plus.
Oui, c'est ça. Et bien, c'est un métier où il faut vraiment être persévérant. Et puis, oui, c'est ce qui s'est passé. Mais surtout, le fait d'accrocher comme ça un éditeur assez vite et qui m'a permis. Sans avoir aucune formation en dessin ou quoi que ce soit, juste l'envie de raconter des histoires. Pendant 6 tomes de la série, j'ai pu, moi, apprendre le métier, comme le faisaient autrefois un peu les auteurs de BD dans les magazines, les magazines Pilote à suivre, etc., où ils se faisaient la main, ils tombaient des pages qui étaient publiées. Et c'est comme ça qu'on se forme le mieux, parce que c'est comme ça que ben, j'ai essayé plein de trucs, j'ai fait des essais, j'ai fait plein d'erreurs, mais au moins j'ai vu ce qui pouvait fonctionner, ce qui fonctionnait moins. Et je me suis vraiment, ça a vraiment été ma véritable formation sur le tas, là, mais ma vraie formation en BD.
Et d'emblée, tu avais été vers la bande dessinée jeunesse. Donc, tu mentionnais Junior l'aventurier, il y a eu Le Roi Pizza A, il y a eu ta série Bon Nuage, Circus et le reste. Donc, d'emblée, l'instinct, c'est vers cette bande dessinée-là que tu as été. Est-ce que c'était un peu naturel? On se dit, on se lance dans BD, on va commencer par du jeunesse? Ou...
C'était naturel pour moi parce que c'est ce que j'ai lu depuis tout petit. Je suis tombé dans les Tintins et les Astérix, qui étaient vraiment les deux grosses séries que je lisais et relisais sans cesse. Chez mes parents, il y avait la collection complète, aussi avec les Lucky Luke. Et donc, pour moi, la bande dessinée, c'était ça. C'est que beaucoup plus tard que j'ai découvert, et je dirais même assez tard par rapport à certains, mais c'est à 20 ans que j'ai découvert Peter Pan de Loiseul, La quête de l'oiseau du temps, que j'ai découvert toute la collection à l'époque chez Delcourt de Terre de légende, avec des auteurs qui débutaient comme Johann Sfar. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers la BD jeunesse, enfin, naturellement, parce que pour moi, c'était ça la bande dessinée. Et c'est en grandissant, puis en découvrant un petit peu toute la bande dessinée à l'époque de l'association qui a explosé en fait les codes de la BD franco-belge, où on a commencé à avoir de l'autobiographie, du documentaire, et puis de la BD adulte, qui autrefois, quand on disait BD adulte, c'était de la BD érotique, mais pas de la BD propos adulte, comme il y a des films adultes, des films sombres, des films de genre. Et même les genres western étaient quand même assez tout public et grand public, hein, comme les Blueberry, par exemple. C'est pas quelque chose de très sombre, c'est quelque chose de très, très grand public. Et donc, voilà pourquoi je me suis tourné vers ça tout naturellement. Puis après, j'ai cheminé, j'ai grandi, j'ai mûri, et puis je me suis tourné vers des récits plus adultes depuis l'époque Rapa Nui, où je m'étais essayé au scénario chez Clair de Lune, et puis ensuite avec Promise, avec le scénario de Thierry Lhermy, et enfin avec mon cycle new-yorkais débuté par Giant, où là, j'assure dessin, scénario et couleur.
Et à l'intérieur de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir ben, justement l'évolution de ton style, l'appropriation du médium. Tu disais, bon, tu es autodidacte, mais avec plus de 20 albums, dans le fond, l'expérience d'apprentissage est large. Est-ce que tu as l'impression, après, dans le fond, pratiquement 20 ans de carrière depuis l'apparition de ton premier album, qu'avec des séries comme Giant, Boot Black, tu es arrivé un peu là où tu as envie d'être en termes de traits, en termes de dessin, en termes d'approche scénaristique?
C'est marrant parce que si on m'avait dit un jour tu feras de la bande dessinée adulte avec très très humaine et avec un ancrage très marqué, très noir, je me dis ben non, ça c'est pas moi, je me reconnais pas du tout. Et ce qui est paradoxal parce qu'en fait, comme tu dis, là où je suis arrivé aujourd'hui avec le graphisme que j'ai développé, puis ma signature graphique en fait et narrative que j'ai développée depuis Promise surtout, et que j'ai vraiment établi depuis Giant et Boot Black, j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être en fait. Et pour l'instant, si je dois explorer d'autres genres, que ce soit la SF ou le western ou même des récits plus pas autobiographiques, mais enfin, autofictionnels ou des choses contemporaines, ça se fera avec ce style de dessin-là quand même. La base sera là. Ma signature graphique et narrative est là, et je me sens à l'aise là-dedans maintenant pour raconter tout un tas d'histoires. C'est vrai qu'on peut voir, il y a deux grands styles sans schématiser, mais il y a deux styles vraiment d'auteur. Il y a celui qui se réinvente à chaque nouvel album parce qu'il a peur de s'ennuyer ou parce qu'il n'a pas encore trouvé son style, et puis comme ça, il change de style un peu entre chaque histoire. Puis tu as les autres, les Manuel Lepage, les Marini, les François Bouc, les Sean Murphy, qui eux peuvent raconter n'importe quelle histoire qui se passe, pour Marini par exemple, que ce soit du Batman, du Rome ou du Scorpion, où là il prépare un polar dans les années 50. C'est toujours son style, c'est toujours sa signature graphique. Et moi je me suis aligné là-dedans, mais sans jamais réfléchir. Tout s'est fait de façon intuitive et naturelle. Et puis c'est ça, j'en suis arrivé là. Et c'est marrant parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être, mais sans avoir vraiment réfléchi et planifié à l'avance, quoi. Ça s'est fait comme ça naturellement, quoi, en travaillant puis en progressant.
Et j'aime bien ce que tu mentionnais tantôt quand tu disais, si on m'avait dit il y a 15 ans, 20 ans que ma signature graphique, ce serait quelque chose quand même avec un ancrage très marqué, c'est d'autant exacerbé parce qu'au départ, je pense aux séries jeunesse comme Circus ou Les Nuages, mais tu n'avais pas d'ancrage essentiellement, donc c'était aussi peu dans le fond.
Ben oui, mais c'est parce qu'en fait, avec ma série Junior l'aventurier, qui était une série que encore je faisais sur papier, à l'encre, avec des rotrings, avec des plumes et des pinceaux, on m'avait dit que j'avais un ancrage pourri, quoi, parce qu'en France, les critiques sont assez acerbes, hein, donc j'habitais encore en France à cette époque-là. Puis quand je montrais, parce que je montrais toujours mes pages à mes pairs pour progresser. Et puis, je sais, un jour, il y en a un qui m'a dit, mais je ne me souviens plus qui, j'aurais dû vraiment m'en souvenir. Mais sur le coup, moi, j'avais surtout pris le fait, j'ai oublié qui me l'avait dit, mais j'avais surtout gardé en tête le fait que j'avais un ancrage pourri. Le crayonné était assez vivant, mais dès que j'ancrais, c'était tout figé. Et c'est pour ça que quand j'ai développé mon style plus jeunesse, dans lequel j'ai essayé d'aboutir chez Clair de Lune avec Les Nuages, La Neige, Circus et la série du Roi Pizza et tout ça. J'ai enlevé l'ancrage, j'ai enlevé le cerné noir, et puis ce qui fait que j'ai modelé mes personnages avec la couleur en fait. Et comme ça, je me suis débarrassé du contour noir qui apparemment était mauvais. Donc effectivement, me dire que maintenant, c'est ce qui fait ma marque de commerce un peu, ma marque artistique, c'est l'ancrage parce que c'est souvent ce qui revient là. Et c'est paradoxal et c'est marrant quoi, parce que comme quoi, la vie nous emmène sur des chemins qu'on ne maîtrise pas toujours quoi.
Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu promis, ce qui a un peu décomplexé ton ancrage ou que tu as ramené parce qu'il fallait faire de la série, tendance un peu horrifique, thriller, suspense, il fallait avoir de la pression, il fallait avoir une densité. Et là, nécessairement, fallait ramener le noir, fallait ramener cet aspect, entre guillemets, pas figé parce que l'album n'est pas figé, mais fallait réapprivoiser, si on peut dire, cet ancrage-là.
Oui, promise, parce qu'à l'époque de Rapa Nui, je ne me sentais pas du tout capable de dessiner du réaliste ou semi-réaliste. Donc c'est pour ça que le Clair de Lune avait cherché un autre dessinateur classique. Je sentais que j'avais besoin de me renouveler quand même avec la jeunesse, même si mes albums sortaient, je vivais de la bande dessinée avec ça. Mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose d'autre. Et puis quand on m'a proposé le scénario de Thierry Lhami, par l'intermédiaire de Glénat Québec, eh ben j'ai dit ok, je vais tenter. Et c'est vrai que c'est le scénario de Promise qui m'a guidé vers un style graphique. Donc je me suis dit c'est un western horrifique, fantastique, très sombre, avec un pasteur démoniaque. Donc il faut que j'y aille avec quelque chose de très noir. Et j'avais été très marqué par la série de Bonin au dessin qui s'appelle Fog, qui était paru chez Casterman, une série en diptyque aussi. Et ça m'avait beaucoup marqué quand c'est sorti. Et je me suis basé sur ces codes graphiques-là, très noirs, très sombres, mais aussi avec du hachurage pour développer un petit peu mon style de Promise. Et puis en m'inspirant de ça, mais qui après, ça a évolué pour avoir un style personnel qui est dans la grande école des encreurs comme le sont, sans me comparer, mais Ralph Meyers, François Bouc, Mathieu Lauffray, on est dans la même école, mais chacun son style et chacun son niveau, bien entendu, quoi.
Et dans le fond, justement, d'un peu du scénario de Rapa Nui jusqu'à qu'on arrive aux séries Giant, Boot Black avec Promise, comment tu t'es un peu réapproprié cette technique-là d'ancrage? Est-ce que c'est vraiment, c'est de l'exercice, on s'installe, on essaie de le trouver justement, cet ancrage-là, ou de le retrouver, de le décomplexer?
Ouais, quand je me suis mis à travailler sur Promise, tout mon temps libre, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté des loisirs. Mes temps libres, c'était, je remplis des carnets, j'apprends à ancrer, je regarde comment font les autres grands ancreurs, dont certains j'ai cités tantôt. Et je regarde comment ils font, j'essaie de comprendre. Et c'est vrai que j'en ai rempli des cahiers, essayer de trouver un style, essayer de comprendre comment ça fonctionnait l'ancrage, même si je le faisais sur tablette graphique, numériquement, mais j'ai cherché à me faire des brosses sur Photoshop personnalisées pour essayer de retrouver l'effet du pinceau essuyé, l'effet de la plume, l'effet de certaines brosses. Et c'était vraiment pendant 2-3 ans, j'ai fait que ça, quoi. En fait, j'ai même arrêté du sport. Alors, ce qui était payant au bout du compte, c'est bien, mais je veux dire, c'était ma santé, il a laissé un petit peu là, mais je suis pas, je suis, je suis, je suis quand même satisfait du résultat, même, et même si je progresse tous les jours, puisque c'est ça qui est beau avec ce médium-là, avec la bande dessinée, c'est que jusqu'à la fin, de pouvoir tenir un crayon, on progresse, quoi. C'est ça qui est bien.
Et de tout ça, de cet exercice-là, de cette réflexion-là, si je te demandais, c'est quoi un peu pour toi, pour Michael, la qualité d'un bon ancrage?
C'est que le trait soit vivant, en fait, que ce soit vivant dans le sens artisanal. Il faut qu'on sente qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a fait avec passion, mais aussi qui a mis tout son savoir-faire, mais qu'il y a des tâches de temps en temps, que ce soit pas, parce que moi je pourrais pas aller vers un ancrage très propre et très très lissé, comme fait ce que fait Michel Rabagliati, par exemple. C'est très bien, c'est très connoté dessin années 50, années 60, mais c'est très très léché et très fin, et c'est pas ma marque de. Moi, je vais faire quelque chose de plus rough, plus artisanal, c'est ça. Plus montrer qu'il y a un gars derrière qui a transpiré, et puis que c'est ça, très humain et pas froid, quoi, en fait. Même si c'est très bien ce que fait Michel Rabagliati.
Et en même temps, j'ai l'impression que c'est difficile parce que tu le mentionnais, on travaille à partir de médiums numériques. Tu travailles à partir de médiums numériques. Donc, de faire réussir à rendre cet effet-là, à rendre l'effet papier dans le numérique. Et j'imagine à éviter le piège du CTRL-Z parce qu'on peut réussir à faire quelque chose de parfait, mais si c'est trop parfait, effectivement, on perd la personne qui est derrière. Donc, on a besoin d'avoir des petits éclats d'encre. Il faut trouver comment les reproduire.
Exactement. La beauté est dans la perfection, en fait. Mais la beauté, dans le sens, l'excès, enfin, oui, c'est dans la perfection. Et avant, effectivement, j'utilisais beaucoup le CTRL-Z. Puis en fait, je me suis rendu compte, non, que je fais mon trait. S'il n'est pas à ma convenance, je vais l'effacer un petit peu, je vais le gommer, puis je vais repasser dessus. Puis je vais laisser des bouts de trait de dessous, de l'efface. Et puis des fois, je me trompe, et puis ça fait un truc bizarre, mais je dis, tant pis, je le laisse. Donc j'ai appris à au fur et à mesure du temps, c'est ça, à maîtriser les aléas. Et même souvent, quand je fais mon crayonné, quand je fais des hachurages au crayonné, j'arrive pas à le reproduire à l'encre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que mon crayonné, qui est plutôt d'une teinte grisée, avec les courbes de niveau, je le mets noir parce que il était déjà parfait, parce que c'était très spontané, et que si je à l'encre, des fois effectivement, faut éviter d'être trop crispé, et que pour éviter que ce soit trop propre, justement, il faut garder une certaine spontanéité. Donc des fois, je me sers de mon trait du crayonné pour ancrer, en fait, en ancrage. Donc et puis c'est même comme ça pour les taches. J'utilise des taches de peinture, donc c'est des vraies taches d'encre que j'ai numérisées, puis qu'après j'intègre dans mon dessin.
Donc en fait, c'est un peu d'accepter l'imperfection, puis d'aller avec de voir un peu c'est quoi la part de contrôle, puis de voir comment à travers ça on va servir le dessin, on va servir l'ambiance, donc par extension on va servir l'histoire.
Oui, puis au début, mes crayonnés étaient très, 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 très poussés, et quasiment je repassais sur le trait. Maintenant, mes crayonnés sont de plus en plus lousses, plus en plus légers, pour me donner justement le choix à l'ancrage d'aller avec telle ou telle masse de noir, et puis de me surprendre dans le sens où je n'avais pas pensé du tout comme ça dans l'ancré quand j'ai fait le crayonné. Mais c'est ça. Je me suis trompé de brosse, j'ai fait un trop gros trait, j'ai trop appuyé, donc comme si le pinceau s'était écrasé, puis finalement ça rend pas mal, donc je vais le laisser comme ça, puis je vais construire autour de ça.
Et parce que j'imagine que c'est un peu dans des étapes comme ça que le cœur de la BD se construit, dans le fond. Donc d'un côté, quand on arrive au découpage, qu'on choisit un peu les plans, qu'on organise nos planches, les pages, ensuite les premiers crayonnés, les premiers élans qui vont donner un peu d'identité à ce qu'on a proposé, c'est un peu le cœur de la démarche, là. Oui, le scénario, oui, l'aboutissement aussi, mais la construction de ce qu'on va lire, nous, lecteurs, c'est à ces moments-là que ça se fige un peu plus, peut-être.
Ça se fige, oui, mais vraiment, le cœur du travail, c'est vraiment le découpage pour moi. C'est là au niveau que la narration se met en place. C'est vraiment ce sont les fondations d'une maison, quoi. Si la maison n'a pas de bonne fondation, elle aura beau avoir les plus jolies couleurs, les plus jolis revêtements de surface, mais s'il n'y a pas de fondation, ça se casse la figure. Donc une bande dessinée, c'est pareil. Même si le dessin est virtuose, la couleur est magnifique, la lumière est super bonne, mais s'il n'y a pas de fondation narrative derrière, ça se casse la figure. C'est-à-dire qu'on lit trois pages et puis très vite on laisse tomber. Alors, on prend plaisir juste à regarder les images, les cases comme des belles illustrations, mais le but, c'est quand même de raconter une histoire et de faire vivre des émotions au lecteur. Donc, si ça ne fonctionne pas, bah, c'est que c'est au découpage que ça s'est mal fait. C'est pour ça que la bande dessinée, c'est quand même un médium où on n'a pas besoin de savoir dessiner pour raconter des bonnes histoires. Et il y a des très bons auteurs, on le voit, hein, qui, Lewis Trondheim le dit en premier. Lui, je ne savais pas dessiner avant de. Maintenant, il dessine de plus en plus, donc il progresse. Mais parce que derrière, il y a une narration, il y a une connaissance du médium qui fait qu'il sait raconter une histoire juste avec des personnages assez simplement dessinés. Mais ça fonctionne. Et c'est le gros avantage de la bande dessinée. Donc, c'est ça. Donc, pour en venir à ce que tu disais, oui, l'ancrage. L'ancrage, effectivement, mais l'ancrage, c'est ce qui finalise mon style, en fait, ou le style de chaque dessinateur, quoi. Mm-hmm. Parce que des fois, même au crayonné, je me rends compte que j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai dessiné, parce que je me suis servi d'une photo, alors pas en décalquant, bien sûr, mais des fois d'une publicité. Alors ça, pour les publicités, pour les lettres, je vais pas la dessiner au crayon puis après l'ancrer. Je fais un copier-coller. Je le mets en gris et puis après moi je vais faire mon ancrage par-dessus. Et effectivement ça fait très froid, mais dès que j'ancre, hop, ça ressemble à ce que je fais habituellement. Donc c'est ce qui va uniformiser le style, je trouve, l'ancrage, plutôt que de figer. C'est la dernière petite touche de la signature graphique de tel ou tel auteur.
Une fois qu'on a bien placé les autres éléments, une fois qu'on a bien saisi l'essence de l'histoire, dans le fond, on peut essayer de comprendre c'est quelle émotion, quel sentiment faut procurer au lecteur, dans quelle ambiance il faut l'amener. Et ça passe beaucoup aussi, j'ai l'impression, dans ton cas, par l'organisation des cases, par exemple, aussi l'organisation des planches. Bon, je pense que il y a Giant qui est derrière toi, c'est un bon exemple, où on est vraiment tout en hauteur, dans le fond, donc on nous amène vers le ciel. Dans d'autres séries comme Promise, ben là, on va travailler plutôt à essayer de nous créer de la pression, un sentiment d'oppression même par moment. Donc, et ça va passer par l'agencement des cases au-delà du dessin lui-même aussi.
Oui, oui, c'est vraiment la base. Il faut que la narration serve l'histoire. Donc effectivement, dans Boot Black, par exemple, on est avec les cireurs de chaussures à même le sol. Donc beaucoup de plans où je pose la caméra sur le trottoir. On est très proche des gens, très proche du sol et surtout des plans horizontaux. Quand il y a une verticale, c'est pour montrer les buildings, le sommet des buildings, qui symboliquement que ces Boot Black n'atteindront jamais, qui symbolisent le rêve américain qu'eux ne pourront jamais atteindre parce que ce sont les plus bas de la hiérarchie sociale de l'époque. Dans Promise, par exemple, j'utilise toujours des plans où le pasteur est quelqu'un qui domine tout le monde, donc il est toujours plus en avant, donc plus gros, ou toujours au-dessus des autres. Il y a toujours cette relation dominant-dominé avec lui, et puis avec toujours des ombrages très, très rabaissés sur les scènes intérieures, avec des gros aplats noirs au-dessus des gens, pour créer comme une chape de plomb au-dessus d'eux. Et puis, donc effectivement, chaque case doit raconter quelque chose, doit amener une émotion, un sentiment, qui doit se dégager de chaque visuel, puisque le lecteur lit l'image avec ou sans dialogue. Le dialogue n'étant qu'un outil narratif de plus, comme la couleur ou l'ancrage, pour raconter l'histoire. Et donc chaque case doit raconter quelque chose, mais chaque case raconte quelque chose par l'intermédiaire de la suivante et de la précédente. Donc il faut vraiment organiser la page comme ça, en fonction de l'ensemble des cases. Et même moi, je travaille par double page, parce que quand le lecteur il ouvre sa page, l'œil découvre globalement la double page, et après il va en haut à gauche pour commencer la lecture. Donc il faut déjà que ces doubles pages soient harmonieuses, qu'elles invitent à la lecture, qu'elles soient équilibrées. Donc j'accorde vraiment beaucoup d'importance à l'architecture de chaque case, mais aussi de chaque page et de la double page, en fait, pour qu'il y ait une fluidité de lecture, pour guider l'œil du lecteur de case en case, pour lui raconter au mieux l'histoire, pour faire passer son œil sur le détail que je voulais lui montrer. Donc tout ça, ben c'est un gros travail, et ça se fait au moment du découpage.
Et justement, en fait, il y a des très beaux exemples dans les albums. Un qui m'a toujours frappé et qui explique bien, en fait, ce principe-là, je pense que c'est dans Promise, à un début d'un des tomes. Donc on est de loin, enfin, on observe une femme qui est dans un lac. On sent, puisqu'on nous place un peu au fond, ben, qu'on va s'en venir, qu'il y a quelque chose qui va arriver à cette personne-là. Finalement, quelque chose arrive, et là, subitement, les planches, les cases, en fait, se mettent à être de plus en plus horizontales, écrasées au sol, et on arrive à la dernière case où l'assaut s'exprime pleinement. Et finalement, c'est une petite case qui est longue, au fond de la page, écrasée même par l'ensemble des autres cases.
Oui, complètement. Je joue aussi avec ce fait-là. Dans Giant, par exemple, il y a Bob le reporter qui visite, c'est une page contemplative, sans dialogue, le temps qui passe. On voit juste Bob, donc le reporter, qui est en haut du chantier, puis qui descend le chantier du Rockefeller Center. Et il descend vraiment avec une échelle, avec un premier petit élévateur, et ensuite avec une grosse échelle. Et il finit à la fin, il est en bas dans la rue. Donc il est passé du haut en bas de la page en descendant du chantier, des sommets du building au trottoir de la rue. Donc je joue comme ça avec ça, et puis avec le mouvement de l'œil du lecteur, par exemple. Dans la scène dont tu décris, effectivement, on a plusieurs cases verticales où on se rapproche de la personne qui se baignait, qui vient de sortir du lac pour se rhabiller parce qu'il pleut. Et bon, elle était déjà mouillée en même temps, mais bon, ça c'était le scénario. Et comme un plan subjectif de quelqu'un qui va arriver, puis d'un seul coup on voit une main au premier plan et elle tire les cheveux. Et donc plus on se rapproche, plus l'œil il va monter en haut des cases. Et quand la personne saisit les cheveux du personnage, la case d'après, la main est en bas. Donc déjà l'œil il fait le même mouvement que la main qui tire vers le bas. Et la case d'après, effectivement, là on est à ras le sol. Donc l'œil du lecteur, il est vraiment monté avec la main, tiré avec la main, et même allé à l'opposé du sens de lecture, comme si vraiment la main avait saisi la personne par les cheveux, puis l'avait jeté au sol de l'autre côté violemment, et sur une petite case, caméra ras le sol. Donc tout ça, le mouvement de l'œil accompagne le mouvement des personnages, ce qui fait que ça renforce le mouvement, l'action. Et ça, c'est des petits trucs que j'ai appris moi en faisant, mais qui renforcent vraiment qui nous aide en bande dessinée, parce que c'est de la 2D sans mouvement de caméra, donc il faut qu'on trouve des astuces pour créer le mouvement, créer l'émotion, parce qu'on n'a pas le jeu d'acteur, on n'a pas la musique, les gens ils sont chez eux, alors des fois bien confortablement assis, mais ils sont pas dans une salle noire comme au cinéma où ils sont focusés là-dessus. Hein, là il y a le cellulaire, il y a qui peut sonner, il y a les enfants, il y a tout le téléphone, enfin il y a plein de choses qui peuvent déranger. Donc, il faut essayer de maintenir les gens au plus possible en trouvant des trucs et astuces pour recréer le mouvement, créer l'ambiance, l'émotion que peut se dégager du dessin.
Et comment on procède justement pour identifier? Parce que, exemple, on parle de cette page-là, tu as mentionné d'autres dans Giant, il y en a un peu partout. Il y a des pages qui sont même plus à effet, il y en a d'autres qui sont quand même plus traditionnelles aussi, un équilibre à l'intérieur de ça. Donc, est-ce que tu te poses la question, dans le fond, OK, cette page-là, il faut que je génère tel effet, puis après ça, il y a une réflexion pour voir, bon, OK, ça serait quoi mes outils, de quelle manière je veux rendre ça, puis après ça, que tu te fais un peu un schéma, un design du mouvement de l'œil que tu essaies d'expliciter. Donc, ça, je veux dire, pour faire l'exemple de Promise, ben, dans le fond, bon, il y a une grosse démarche, une réelle réflexion pour en arriver à ça, puis une réelle mise en scène aussi.
Oui, mais c'est déjà, je travaille, ben, pas pour Promise, parce que je n'étais pas au scénario, mais pour Giant, Boot Black, et puis mes futures histoires de mon cycle new-yorkais. J'ai déjà un chemin de fer avec les 104 pages, 108 pages, 2 fois 54 planches. Donc, j'ai un chemin de fer pour déjà voir, comme tu dis, l'équilibre. Parce que si j'ai que des pages d'action, ça ne va pas être bon. Il faut 2-3 pages d'action, du contemplatif, du dialogue, et puis ainsi de suite. Parce que l'action ou le contemplatif ne prend son intérêt que par rapport à la séquence d'à côté. Donc, si... je me souviens aussi, par exemple, c'est Tardy dans une classe de maître qui avait dit que on fait des plongées, des contre-plongées tout le temps, mais lorsqu'on va vraiment vouloir utiliser le plongé pour montrer, par exemple, l'isolement du personnage, ben, on va perdre son effet. C'est un peu comme certains films américains qui sont une orgie d'effets spéciaux. La caméra, elle virevolte partout, mais en fait, et c'est tout le temps comme ça. Donc, on est épuisé. Et puis, si on veut vraiment montrer quelque chose qui se passe de « waouh » et d'important, ben, on perd l'effet parce que c'est tout le temps d'un niveau virevoltant. Je ne le critique pas, c'est un style de cinéma qui fonctionne, qui est très bien. Mais en bande dessinée, on retrouve aussi la même chose. Parfois, des cases éclatées, beaucoup d'actions, des cases insérées dans une autre case. Alors oui, ça paraît dynamique comme ça, mais si c'est trop comme ça, ben, après, effectivement, comment... Il faut, c'est ça, utiliser les effets avec parcimonie, parce que sinon on peut perdre l'effet si c'est noyé dans une orgie d'effets. Et oui, je disais ça, je sais plus pourquoi, mais oui, tu me disais. Souvent, okay. Je parle.
Et en même temps, c'est autant vers l'avant-plan que vers l'arrière-plan, parce que si je me trompe pas, c'est dans Boot Black, par exemple, il y a une scène où le dialogue entre tes personnages principaux. Et en arrière, bien, il y a aussi un couple, une famille qui se fait évincer de son logement. Donc, il y a des éléments qui subitement mettent par le décor ou par l'ambiance, mais dans le fond, on en exergue des situations, des états ou une émotivité latente. Donc, ça vient servir, ça vient se mettre en écho aussi avec l'action principale.
Oui, ben le dialogue, c'est ça. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un outil narratif. Donc, il faut savoir s'en servir le mieux possible. Et moi, je suis limité à 2x54 planches pour des raisons éditoriales. Je ne fais pas un roman graphique avec un nombre de paginations illimité. Donc, j'ai de la place, ma place est restreinte. Donc, j'utilise souvent cet effet que si le dialogue se suffit à lui-même, je ne vais pas paraphraser mon dialogue en illustrant exactement ce qui se passe. Ça serait complètement idiot et ça ferait une histoire plate et mal racontée. Donc, si mon dialogue se suffit à lui-même, à ce moment-là, le visuel peut explorer d'autres voies. Donc, je peux montrer une autre action qui se passe. Une action qui n'a pas... Souvent, ça n'a pas rapport avec l'action principale, mais qui permet de montrer l'atmosphère de l'époque. C'est du décor supplémentaire, c'est une immersion dans l'univers. Mais des fois, ce que je montre, c'est peut-être un gros plan sur quelque chose pour préparer ce qui va se passer ou un plan qui va montrer l'état d'émotion des personnages. Par exemple, vous verrez dans le tome 2 de Boot Black, il y a une séquence de dialogue au cimetière et j'ai fait passer l'émotion des personnages par les statues qui entourent les personnages plutôt que de faire encore un gros plan sur les yeux ou sur le visage du personnage qui est dans un down. Et bien ça passe par les statues qui sont très expressives dans le cimetière de Calvary Cemetery dans le Queens à New York et ça je l'ai appris en lisant Watchmen d'Alan Moore par exemple. Watchmen qui utilise vraiment le dialogue est là et le visuel montre quelque chose qui n'a rien à voir. Au début des fois, on ne comprend pas. Et puis, quelques pages après, ah oui, on comprend que c'est ça, que c'était en fait une amorce. Et ça m'a appris sur cette BD, qui est une pépite narrative. Là. Après, on peut ne pas aimer les super-héros. J'ai critiqué tout à l'heure les films hollywoodiens. Mais en même temps, il y a des choses très, très bonnes. Et il faut savoir aller chercher. Il y a du bon dans tout. Donc, ça m'a appris ça et que j'utilise depuis des années maintenant. C'est ça. Si le dialogue se suffit à lui-même, le visuel peut explorer une autre voie ou inversement. Et ça, c'est intéressant parce que ça enrichit la narration. En fait.
Et à tout ça, dans le fond, on a parlé un peu de la narration, on a parlé évidemment de l'ancrage du dessin, on a parlé l'organisation des planches, des cases. Et à ça, on ajoute aussi la couleur qui devient ton autre outil narratif. J'ai l'impression, ben, enfin, encore là, si on refait un peu la chronologie, je me rappelle des séries jeunesse, c'était comme complètement éclaté, c'était hyper coloré. Et là, oups, avec Promise, là, tranquillement, on a réduit un peu la palette de couleurs, on l'a centré pour arriver presque dans une quasi-brichromie avec Giant, avec Boot Black.
Oui, mais je suis... La couleur, c'est pareil, elle doit servir l'histoire. Donc, dans Promise, je voulais y aller avec quelque chose de très rabattu, des couleurs très sales, mais très grises. Donc, c'est quasiment des monochromes, effectivement, de vert ou de bleu, mais bleu-gris, du bleu, vert de gris aussi. Et alors, dans Giant, je me suis posé la question, est-ce que j'y vais vraiment sur cette même voie-là? Alors, je voulais quelque chose un petit peu plus saturé. Mais donc la couleur plus présente, mais pas non plus d'une couleur classique. Donc je fais jamais un ciel bleu. Donc je voulais quand même une ambiance d'époque. Comme je travaille qu'avec des photos d'époque qui sont en sépia ou noir et blanc, je me voyais pas faire quelque chose. Et en plus mon histoire se passe pendant la Grande Dépression, donc je me voyais pas faire quelque chose de très flashy, de très cabaret de Broadway. Alors que les voitures étaient très colorées, les robes étaient très colorées, mais je trouvais que ça desservait un petit peu mon histoire. Donc j'y suis allé vers quelque chose d'inspiré d'un mouvement de peinture qui s'appelle Ashcan School, qui est un, plusieurs peintres de fin 19e, début 20e qui peignaient des scénettes de la vie quotidienne dans les quartiers populaires de New York, notamment le Lower East Side ou Soho. Et je me suis inspiré un petit peu des palettes de couleurs comme ça de ces peintres-là qui étaient très, 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 très rabattus, mais quand même avec des fois des ambiances de mauve, de rose ou complètement verte. Et c'est ce qu'on trouve dans Giant et dans Boot Black.
Donc, en fait, j'ai l'impression qu'à tes outils, dans le fond, il y a un élément de réflexion qui arrive à ce moment-là ou dans la création de l'album. Donc, quand tu es dans ton casting de décor, quand tu es dans ton casting de personnage, ben, tu es aussi dans ton casting de coloration. C'est-à-dire, ben, voici, ça va être l'ensemble de mes outils de couleurs. Il y en a 5, il y en a 7. Et c'est avec ça que je vais travailler pour développer l'esprit de cet album-là.
Oui, c'est exactement ça. Après avoir écrit le scénario, je fais mon casting de personnages, mes recherches de vêtements, mes décors. Je repère des décors. S'il y a une comme la Fulton Street dans Boot Black, où il y a le magasin de fruits et légumes du père de Maggie, je l'ai vraiment faite. J'ai regardé comment elle était à l'époque. Mais après, moi, je me détache de la documentation aussi. Hein. Mais je me suis créé ma propre rue. J'ai dit, je vais mettre tel magasin ici, pour toujours avoir les mêmes repères et puis pour pouvoir tourner facilement, moi, en 3D dans cet univers-là. J'avais fait la même chose pour Promise. Hein. Une des premières choses que j'avais faites après les personnages, j'avais fait le plan du village pour pouvoir m'organiser, toujours avec des éléments de repères bien caractéristiques. Il y avait le château d'eau, par exemple, pour le centre du village. Il y avait une éolienne qui était pour la ferme de Rachel et de sa mère. Donc, des éléments caractéristiques, une fois qu'ils sont montrés, on n'a plus qu'à montrer l'éolienne, et hop, le lecteur sait qu'on est à la ferme et pas au village, et inversement. Donc, et puis comme ça, pour pouvoir organiser, moi, de façon un peu crédible, alors je dis pas que des fois j'enlevais ou je rajoutais une maison, parce que la construction de mon plan nécessitait qu'il y ait moins de maisons qui soient moins allongées. Donc, mais globalement, si on fait pas attention... Si on n'est pas pointilleux, si on laisse embarquer dans l'histoire, il y a quand même une cohérence géographique des lieux, quoi. Et ça, pour moi, c'est important. Je sais que certains auteurs n'ont rien à faire et eux, ils font comme ça. Moi, j'ai besoin de ça pour avoir une base. Mais après, comme je dis, je prends des grosses libertés. Je me souviens, c'est Hitchcock, là, je ne sais plus dans quel film, il y a une scène qui se passe dans un cimetière. Et il y avait des gens qui s'étaient amusés à essayer de recréer le cimetière avec des tombes caractéristiques et selon les plans. Mais il n'y avait rien qui tenait parce qu'en fait, c'était factice parce qu'il avait fait tel plan parce qu'il voulait mettre en avant. Il trouvait que cette tombe-là était bien mieux en avant, ça créait un meilleur plan, etc. Donc voilà.
Oui, mais de jouer un peu avec l'historique, de jouer avec le véridique. Et puis, alors en fait, tu te le permets, puis j'ai l'impression que c'est même littéralement l'amorce de départ de Giant, où tu vois la photo Launch Atop a Skyscraper de Child Clyde Ebbets qui est prise en 1932. Et à partir de cette photo-là, que son histoire, ben toi, tu as inventé ton histoire, puis ta mythologie new-yorkaise, si on peut dire. Donc, comme quoi aussi, une même image, un même élément de départ va après ça amener... différents éléments selon le créateur, selon l'inspiration. Et l'impression que j'en ai, parce que dans le fond, ta trilogie new-yorkaise, si on peut dire, donc qui a démarré avec Giant, inspiré de cette photo-là, qui après ça débordé vers Boot Black, qui débordera peut-être vers autre chose par la suite. Mais dans le fond, la question, j'imagine, un peu ce que tu amènes, c'est de dire, ben, c'est quoi le New York de Michael? Et j'ai l'impression que pour toi, le New York, c'est beaucoup le côté, le microcosme, dans le fond, le microcosme social autour qui nous amène à parler d'immigration, qui nous amène à parler d'identité, qui nous amène à parler d'intégration, qui nous amène à parler de solitude, d'espoir et de reste, mais avec beaucoup l'ancrage de la construction identitaire, dans le fond, qu'on arrive dans cette micro-société-là et que tout est possible et rien n'est possible simultanément, dans le fond.
Oui, c'est vraiment le... En fait, je raconte la désillusion du rêve américain, en fait, parce qu'on parle beaucoup de ceux qui ont réussi, mais combien il y en a qui sont arrivés là, puis qui ont eu des grosses désillusions, qui ont vécu dans la misère, et parce que pour un qui réussit, combien il y en a qui finalement vont être miséreux toute leur vie. Et moi-même, étant immigrant français installé en Amérique du Nord, en étant passé par les Antilles, on s'entend que j'ai toute proportion gardée au niveau de l'immigration. J'ai pas immigré à la fin du 19e ou début du 20e. Mais il y a quand même un déracinement, une réappropriation d'une culture qui n'est pas la sienne. qui fait que ben, moi, ça m'a amené à beaucoup me questionner, puis j'ai envie de le partager. Et puis, je suis fasciné par cette haine qui se crée, par exemple, comme on voit dans le film Gang of New York, ou comme je l'exploite dans Boot Black, entre les natifs de fils d'immigrants, hein, les immigrants de deuxième génération, puis ceux qui sont arrivés. Très vite, on oublie hein, les Irlandais qui débarquent du bateau, qui sont lapidés par les Irlandais qui sont nés là de parents qui eux-mêmes ont débarqué. Le président des USA actuels qui crache sur les immigrants, alors que son grand-père, il a fait fortune pendant la ruée vers l'or en ouvrant des hôtels qui étaient à la fois des hôtels de passe, des salons de jeu. Et c'est comme ça qu'il a fait fortune. C'est un immigrant allemand hein, qui avait fui l'Allemagne pour ne pas faire son service. Donc très vite, les générations nées ici oublient un peu d'où ils viennent. Puis ça m'amène à me questionner. Et je trouve ça important. Et puis, effectivement, c'est une série qui se passe à New York. J'ai essayé de personnifier la ville, mais je ramène toujours à l'humain. C'est toujours l'histoire humaine qui prime, en fait, ce que vivent les gens, comment ils en arrachent pour pouvoir évoluer. Puis derrière tout ça, malgré tout, il y a toujours de l'espoir, quoi, en fait. Il y a toujours une lumière qui doit se dégager, même si le destin peut être tragique pour certains. Parce que c'est pas eux qui vont avoir l'espoir, ça peut être leurs enfants. Ils vont un peu se sacrifier pour que leurs enfants aient une vie meilleure.
Parce que d'un côté, dans Giant, dans le fond, on est un peu dans une dynamique où lui cherche à oublier ce qui vient avant, donc on est vraiment dans le renouveau, mais finalement, on se rend compte que on peut essayer de se sauver le plus loin possible du passé, bien éventuellement, le passé va nous rattraper, il n'arrête pas d'exister parce qu'on est ailleurs, et donc on ne peut pas faire abstraction d'où on vient dans la construction de qui on est. Parallèlement, dans Boot Black, là, on est plus dans des fils d'immigrants, si on peut dire, donc dans une certaine deuxième génération. Tu disais, ceux qui sont nés aux États-Unis, ceux qui sont venus d'ailleurs avec leur famille. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est américain? Qu'est-ce qui fait qu'on est canadien plutôt que français, allemand, russe? Dans les tranchées des Ardennes, finalement, les soldats américains que tu nous amènes à rencontrer, bien, il y en a un qui est allemand, il y en a un qui est russe. Donc, c'est quoi l'identité, finalement?
C'est ça, Boot Black, c'est une quête identitaire en fait, hein. C'est le personnage principal qui a rejeté ses origines allemandes parce qu'il est né aux États-Unis et puis qui se retrouve confronté à affronter des Allemands et à même à se retrouver en Allemagne sur le front, donc confronté à son ancien pays, son pays d'origine, et ça c'est une question intéressante que je voulais développer. Sans donner effectivement de réponse, mais pour confronter mon personnage là, puis pour amener le dialogue là-dessus, la réflexion là-dessus. Et oui, parce que au Canada, aux États-Unis, je veux dire, à part les natifs, les premiers habitants, on est tous des immigrants de entre 10 et de première ou 10e génération en fait. Donc, et tout le monde se réapproprie ce lieu par rapport aux générations d'avant. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler et puis d'amener la réflexion là-dessus.
Et New York le permet justement, pour revenir un peu au choix de la ville. C'est New York permet ce type d'exploration-là.
C'est pour ça que j'ai placé parce que c'est une ville qui me passionne depuis l'enfance, mais aussi parce que c'est la ville de l'immigration. C'est Ellis Island, c'est tellement marqué, tellement iconique que on a tous les images de ces gens qui débarquent du bateau avec leur valise en carton, leur sac d'osier et puis c'est super comment émouvant.
Oui, et puis en plus, dans le fond, il y a le choix de la date aussi, il y a le choix de la ville, mais il y a le choix de l'époque. On est dans les années 1930, et pour moi, et à voir aussi comment tu nous mets en scène, bien, on est en train de construire le New York moderne, et on est pratiquement en train, je veux dire, on bâtit des cathédrales, pratiquement.
Oui, et puis justement, des cathédrales, des buildings qui transforment les cathédrales, comme la cathédrale Saint-Patrick, en simple chapelle, parce que quand on voit une cathédrale à côté d'un building, on dirait une bicoque en fait, hein, une cabane. Et c'est pour ça que j'ai placé ça aussi après 1930, parce qu'avant 1930, il n'y avait pas le Chrysler Building, il n'y avait pas l'Empire State Building, le Rockefeller, il n'y avait pas tous ces buildings emblématiques qui sont encore là aujourd'hui. Et je voulais absolument montrer cette période-là où, où c'est là que les buildings se sont construits, en même temps que c'était la grande misère, la crise économique très, très, très marquée. Et j'ai commencé à écrire ça, on sortait de la crise économique de 2008 aux États-Unis, donc je voulais aussi avoir une répercussion contemporaine, parce que dessiner le contemporain, ça m'ennuie, mais parler du contemporain, c'est exactement ce que je veux, mais par le prisme de l'histoire, en fait. Et pour montrer aussi que l'histoire est une boucle qui se répète et qu'on fait souvent les mêmes erreurs. Je dis on, l'humanité.
Collectivement. C'est ça, oui. Et d'un album à l'autre aussi, tu sais, dans le fond, les Sky Boys, The Giant, dans le fond, on voit la misère dans laquelle ils se retrouvent, la difficulté du métier et le reste, mais on se rend compte aussi, en gros, dans Wood Black et ailleurs, du moment où on descend, mais qui sont un peu les stars de ce microcosme de pauvreté, si on peut dire, dans le fond, où on a l'impression que c'est le métier qui peut nous amener à aller plus loin, donc qui représente déjà une part de rêve, peut-être parce qu'il s'élève aussi au-delà des gratte-ciels, mais j'ai l'impression que le type de Wood Black, peut-être qu'il préférait être Bye Boys, être Sky Boy un peu aussi, à certains égards.
C'est ça, non, les Sky Boys, pour les gens, pour le milieu populaire, c'était des stars, parce qu'ils gagnaient $60 à la semaine, donc ils étaient très bien payés, et c'était ceux qui construisaient les buildings, et qui étaient très fiers après dans la rue à montrer à leur famille, tu vois, celui-là, c'est moi qui l'ai construit. Tout ça. C'était vraiment les stars de l'époque, effectivement, dans le milieu populaire. Et on est tous le pauvre ou de quelqu'un, en fait. Donc, effectivement, ils étaient vus comme des stars par les gens encore un peu plus bas. Mais par contre, pour les gens qui faisaient, les promoteurs qui faisaient construire ces buildings, c'était que de la main-d'œuvre remplaçable. Ah merci, parce que de toute façon, il y avait une ligne d'attente pour postuler le matin à la job. Donc, c'était, pour eux, c'était juste de la manœuvre facile et payée pas cher pour les promoteurs riches.
Et tes albums new-yorkais, en fait, du moins pour Giant et pour Wood Black, tu les mets toujours en écho avec justement la vieille Europe. Dans Giant, avec donc l'Irlande, dans les moments difficiles aussi de leur côté. On le mentionnait tantôt, Wood Black, c'est dans les Ardennes. Donc, important d'avoir comme ça un peu un récit qui se bâtit en écho, d'avoir différents contextes qui nous permettent d'expliciter que soit dans Wood Black, c'est le même personnage qu'on envoie à la guerre. Dans Giant, on est plus dans une logique épistolaire entre Giant et la conjointe d'un homme qui a perdu la vie sur les chantiers justement de Skyway, mais dans le fond, d'avoir des récits comme ça où on passe d'un lieu à l'autre, où on se met un peu en écho, où on construit dans le fond d'un peu plus loin une situation.
Oui, c'est ça. Je voulais pas faire que des pages qui se passent qu'à New York. Je voulais, comme je parle des immigrants, il faut qu'on voit un petit peu aussi d'où ils viennent. Donc l'Irlande, dans Giant, l'Allemagne, un petit bout de France. Quand Hal traverse la France fraîchement libérée, puis après sur le front pendant la campagne d'Allemagne. Donc il faut qu'on voit d'où viennent, il faut qu'on voit un peu l'Europe, parce que la grosse majorité des immigrants à cette époque-là, en dehors des immigrants chinois, venaient d'Europe. Et la même chose dans ma troisième histoire de mon cycle new-yorkais, là, c'est une personne qui vient d'ailleurs. Donc on va aussi voir quelques pages qui va se passer dans son pays d'origine. Et je trouve ça intéressant parce que ça met en perspective les origines et surtout un contraste énorme entre la ville urbaine sale et souvent la campagne d'où viennent ces gens-là.
Et avec le défi que visuellement, ça reste cohérent. Dans le fond, l'Irlande qu'on présente dans Giant, ça peut pas être l'Irlande verdoyante parce que là, ça trancherait complètement avec l'univers de la ville. Donc, faut, j'imagine, dans la composition visuelle, réussir à aller chercher l'essence de ces régions-là, mais sans trahir l'esprit général qu'on a bâti à partir de New York.
Oui, des fois, je me posais la question, c'est est-ce que je ne vais pas y aller avec un graphisme différent? Et puis très vite, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que ça soit traité pareil. Si j'ai raconté toute une histoire en Irlande, ça ressemblerait au niveau graphique à Giant, sauf que il y aurait beaucoup moins de building, mais effectivement les scènes qu'on voit du Connemara avec l'océan, les plaines, c'est pas une plaine verdoyante très très verte, c'est un vieux vert, encore un vieux vert de gris, parce que c'est l'époque, c'était loin. Il y a que pour le troisième diptyque là, justement, Je me suis encore posé la question. Puis finalement, je vais y aller avec un monochrome de bleu et juste avec une tache jaune de temps en temps sur certains éléments dont je vais mettre en évidence. Mais le graphisme sera le même. Pour vraiment trancher, ça sera des scènes de flashback où le lecteur apprendra plus sur le personnage principal qui est une femme. Et donc là, ça sera un monochrome de bleu, mais c'est pareil, ça ne va pas être un bleu flashy, ça va être un vieux bleu, et avec beaucoup de blanc aussi. J'utilise beaucoup le blanc dans ma narration. Le ciel est souvent blanc, les arrière-plans sont souvent blancs aussi.
Donc, en fait, dans Giant, on est dans une correspondance avec le présent. Dans Boot Black, on est un peu dans les flash-forward, donc on va voir vers l'avenir. Puis dans le troisième, ben là, on ira vers le passé un peu.
C'est ça. J'essaye de ne pas me répéter parce que la ville est la même, l'époque est la même, le traitement graphique est le même. Donc, je ne veux pas garder la même structure d'histoire globale. Donc, à chaque fois, j'utilise une structure d'histoire différente. Et c'est marrant parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit, justement, quand je disais que je travaillais sur Boot Black, est-ce qu'il va y avoir encore le narrateur radio? Est-ce que ça va être pareil? Je dis, je me suis posé la question, mais je n'ai pas voulu me coincer là-dedans parce que c'est vrai que c'était... j'ai des bons retours là-dessus, donc ça, l'idée a plu. Et puis, ça a amené vraiment quelque chose. Mais je ne voulais pas tomber dans le piège de repartir avec Walter Winchell et puis Bonjour New York City, etc. Et donc, j'ai voulu partir sur une autre structure d'histoire où on est déjà en 1945 et c'est le personnage qui se remémore son passé, comment elle est devenue Boot Black. Et là, on part en flashback et toute l'histoire principale est un flashback. Donc, c'est pour ça qu'en fait, si on considère que l'histoire principale est à New York, après, c'est des flash-forward par rapport au futur du personnage, à son devenir, jusqu'à rattraper le début de l'histoire et puis après, on finit. C'est une structure qui sont toutes classiques, mais moi, c'est que j'ai des fois, j'ai pas respecté la chronologie, donc des flash-forward en fait. Donc c'est au lecteur de remettre tout ça un peu bout à bout, sans qu'il ait beaucoup de, au début, d'informations. Hein. Je mets pas New York City 1945, New York City 1935, front allemand 1945. Donc ça, je laisse découvrir. Mais quand on a une lecture globale du tome 1 et du tome 2, tout se met en place naturellement parce qu'il y a des indications. C'est pour ça qu'il faut toujours relire le tome 1 quand on lit le tome 2 de mes histoires. Parce que ce n'est pas un deuxième épisode, c'est vraiment une histoire complète qui a été scindée en deux pour des raisons éditoriales. Et,
une histoire complète centrée sur l'humain, centrée sur l'évolution des personnages, centrée sur leur cheminement affectif, leur cheminement personnel, leur cheminement identitaire. Donc, il faut se remettre en contexte. Et peut-être, Michael, en terminant, j'irai peut-être avec quelques questions en rafale à te lancer. On sort un peu des albums, là. Je te laisse répondre avec les titres qui te viennent en tête. La première BD que tu as lue?
La première que j'ai lue?
Oui.
Je pense que ça doit être, je ne sais pas, un Tintin, je dirais. Ouais, je dirais un Tintin. Alors, lequel, je ne sais pas.
Dans l'eau.
Ouais, un Tintin, certainement.
Et celle que, dans l'ensemble des BD, celle que tu as le plus lue et relue?
Lue et relue pour vraiment la lire d'un point de vue, je me mets dedans de A à Z. C'était surtout quand j'étais jeune. Et ce qui me vient vraiment tout de suite en tête, c'est plus Astérix en Corse. Mais parce que j'ai vraiment adoré l'humour très fin. Puis je me souviens, enfant, je comprenais pas tout. Après, plus je grandissais, plus je comprenais des jeux de mots et des références. Surtout que j'avais un oncle qui avait habité en Corse. Mais en fait, tous les Astérix, je les ai lus et relus à les user. Et tous les Tintins aussi. Un peu moins les Lucky Luke. Les Valérian, qui étaient les premières BD que je me suis acheté. Les Héros de l'Équinoxe et Sur les Terres Truquées. Alors, je les ai relus et relus. Maintenant, je relis beaucoup plus de BD, mais pas les relire dans le sens d'un lecteur, mais les regarder. Les BD de mes maîtres, je les feuillette juste pour comprendre leur construction graphique, leur construction de plan, etc. Mais pas dans le sens de lire l'histoire.
Et justement, ça mène un peu à la troisième question. En fait, la BD qui t'a le plus marqué, personnellement ou professionnellement?
Personnellement, on va dire que Là où vont nos pères de Chautan m'a beaucoup marqué. C'est vrai que ma série, mon cycle new-yorkais, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que c'était c'était une, il y avait une grosse filiation avec, avec cette BD-là qui a eu le prix d'Angoulême en 2000, si je crois. Donc, Arrival en anglais et Là où vont nos pères en français. Ouais, ça, c'est la BD qui m'a vraiment le plus marqué. Après, Un printemps à Tchernobyl d'Emmanuel Lepage m'a beaucoup marqué aussi, d'un point de vue de lecteur personnel, mais après, au niveau d'un point de vue professionnel aussi, parce que tout est excellent. Le dessin est magnifique, la narration est tip-top. C'est un documentaire, mais qui est quand même basé sur l'humain et ce que ressent le narrateur. Donc, on apprend des choses, mais de façon très, très fluide, très fictionnelle, bien que ce soit un documentaire avec des faits réels. Donc, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Mais après, tous les François Bouc, les Sean Murphy, Marini, j'ai beaucoup vu aussi, Taniguchi, puis tous les derniers de Emmanuel Lepage sont des BD qui m'ont beaucoup marqué. Ouais.
Et deux dernières questions. Premièrement, si tu étais un personnage de BD, tu serais qui?
En fait, je suis tous mes personnages que je mets en scène. Je suis Giant, je suis Dan, je suis Al, je suis Maggie, parce qu'il y a une part de moi dans chacun d'eux, donc je suis tout cela en fait.
Et en terminant, j'ai presque envie de terminer hors BD. Est-ce que il y a un livre qui t'a marqué ou il y a un livre que tu recommanderais particulièrement mais qui n'est pas de la bande dessinée?
J'ai découvert il y a peu de temps, qu'il y a quelques années, Colm McCann, un Irlandais installé aux États-Unis, avec son livre Que le vaste monde poursuive sa course folle, que j'ai aimé, mais pas forcément apprécié à sa juste valeur. Mais après, c'est Jean-Louis Tripp qui m'a, donc un ami et collègue auteur, qui m'a un jour, on m'envoie un courriel, il dit: ça y est, je sais quel prochain livre tu vas adapter en bande dessinée, lis Les saisons de la nuit de Colm McCann. Et celui-là, je l'ai lu parce que j'étais intrigué. Et effectivement, ouais, celui-là, je suis pas du tout passé à côté. Là, celui-là, il m'a beaucoup marqué. C'est le livre des dernières années qui m'a beaucoup marqué, donc Les saisons de la nuit. Parce que ça reprend mon univers, des petites gens, ça me rejoint beaucoup par rapport au thème que j'aborde. Donc, ça m'a beaucoup touché parce que c'est bien écrit, c'est une écriture moderne. On est à la fois avec les personnages, on sent leur solitude, leur misère, mais en même temps, leur misère, mais sans être dans le misérabilisme non plus. Donc, c'est le côté vraiment humain et ça m'a marqué.
Alors, voilà, dans le fond, comment on conclut cette rencontre du 9e cycle. Michael, je le rappelle, en fait, on te lit avec le triptyque Promise, avec le diptyque Giant, le diptyque Boot Black, c'est chez Glénat, c'est chez Dargaud. Également, en fait, peut-être un prochain diptyque à venir, on en parlera plus à la sortie du tome 2 de Boot Black. Alors, Michael, merci beaucoup de t'être prêté au jeu.
Merci vraiment. Bye-bye.
Alors voilà, c'est ce qui termine cette première rencontre du 9e type. Merci évidemment aux partenaires de cette toute nouvelle série, alors Québec BD qui est à l'origine du concept, La vie en BD, CKRL 89.1 également. Et on remercie aussi la Fabrique culturelle. J'en profite pour également souligner la part et la contribution de Thomas Louis Côté, qui est directeur général de Québec BD, qui s'occupe également des enrobages techniques et qui appuie au niveau de la sélection des invités. Alors, merci beaucoup à Thomas Louis. Alors, c'était Raymond Poirier, donc animateur de La vie en BD. Ça a été un plaisir pour moi de passer cette heure avec vous. Et j'espère vous revoir la semaine prochaine avec notre prochaine rencontre du 9e type. On va aller vers l'Europe avec notre invité. On va jaser avec Benoît Féroumont autour de la série Le Royaume. Alors, merci beaucoup et à la prochaine fois.